Chers auditeurs, bonjour. Radio Grand Ciel vous présente son émission Tourne-Page. C'est avec plaisir et beaucoup d'émotion que nous vous faisons réécouter l'émission où Philippe Boudet, quelques jours avant sa mort, nous présentait son guide des abbayes du Perche. Il était accompagné de Jean-François Suzanne, président des Amis du Perche de l'Orne, et interrogé par Christiane Blain. Les beaux jours sont de retour, c'est le moment de se replonger dans ce guide pour découvrir toutes ces belles abbayes du Perche. Écoutons Philippe, Jean-François et Christiane.
Aujourd'hui, nous tournerons les pages d'un livre de Philippe Boudet, Guide des abbayes et prieurés du Perche et de ses confins. Ce livre est publié aux Amis du Perche. Et je dois dire que je suis très heureuse de recevoir l'auteur, Philippe Boudet, et l'éditeur, c'est-à-dire les Amis du Perche, représentés ici par Jean-François Suzanne. Jean-François Suzanne, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Philippe Boudet, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, pourquoi, Philippe Boudet, avez-vous écrit cet ouvrage sur le monachisme ? Je voudrais d'ailleurs dire à nos auditeurs que votre livre est fort bien présenté. J'aime beaucoup la couverture qui est représentative puisque on a cette belle photo d'un très beau prieuré. Il s'agit bien sûr
de la Chartreuse du Val-Lieu. Et j'aime beaucoup cette photo parce que on a une vue traditionnelle de l'abbaye comme quelque chose bâti au XIIe siècle. Alors cette Chartreuse a été totalement rénovée au XVIIIe siècle, et donc c'est un peu original comme présentation.
Oui, je dois dire que les photos sont très réussies, et je voudrais citer justement les auteurs de ces photos, Guilain de Drebrézé, Albert Galissier et Patrice Grébert, qui sont très connus dans le Perche. Alors effectivement, très belle couverture qui donne bien sûr envie d'avoir ce livre dans nos bibliothèques. Alors j'en reviens à ma première question. Comment vous est venue l'idée d'évoquer le monachisme dans le Perche? Est-ce qu'il y avait beaucoup de moines, de religieuses? Plein de questions que nous nous posons.
Bon, en fait, au départ, je suis simplement un natif du Perche, amoureux du Perche, et j'ai donc visité le Perche sous toutes ses formes, les manoirs et autres. Et puis, d'un seul coup, je me suis très intéressé à tous ces petits prieurés ou ces abbayes, enfin tout ce monde monastique qui était encore là en permanence. Et cette densité de bâtiments m'a interloqué. Donc j'ai eu plusieurs réflexions. Ben, essayons d'en faire la liste et puis de tous les nommer.
Donc vous avez dû faire maintes promenades toutes plus intéressantes les unes
voilà,
que les autres.
Voilà, oui, c'est d'approfondir à chaque fois. Et puis la deuxième question, c'est mais au fait, qu'est-ce qui les a bâtis? Qu'est-ce qu'ils font là? Et pourquoi il y a des moines de Grandmont? Pourquoi il y a des chartreux? Pourquoi il y a des bénédictins? Essayez de comprendre un peu tout ça.
Et vous avez répondu à toutes ces questions?
J'ai été bien aidé par...
Oui, je sais que vous avez vu beaucoup d'historiens du Perche, à savoir...
Oui, moi je ne suis pas historien, je tiens à le dire, je suis un vulgarisateur, un promeneur. Philippe Siguret m'a beaucoup aidé, et puis l'abbé Lefebvre, qui était le curé de Beaumont-les-Hôtels, qui était un historien reconnu sur le Perche, m'a aidé, l'abbé Géant aussi de ce ton. Donc j'ai senti que cette démarche, elle était en adhésion avec les attentes. En fait, si je l'ai écrit, c'est parce qu'il n'existait pas. Hein, sinon...
Mais oui, non, mais justement, très content parce que on va pouvoir se promener en ne regardant pas seulement les manoirs, mais également les monastères qui existent encore. Et bien sûr que je vais vous demander la liste parce que. Mais avant tout, pourquoi ces foyers de religieux dans le Perche?
Il y a une première époque, la christianisation du Perche. Disons que jusqu'au XIe siècle, les monastères, c'était soit des grandes abbayes qui étaient fondées par les grands feudataires, le roi ou l'empereur qui créaient les abbayes, soit c'était des ermites prédicateurs qui d'un seul coup se stabilisaient à un endroit et puis ils avaient des admirateurs, des gens qui voulaient suivre la même vie que lui et donc créer une petite communauté. Bon, donc c'était... là, il n'y avait pas de structuration particulière. Et puis, il y a eu les invasions normandes, et puis, les grands feudataires, là, on nommait des guerriers pour tenir un petit peu tous les points, essayer de combattre ces invasions, et ces seigneurs se sont arrogés, parce qu'ils en sentaient le besoin, le droit de fonder eux-mêmes des monastères. Alors pourquoi est-ce qu'ils fondaient des monastères? D'abord pour assurer leur salut. Mais aussi, il y avait des retombées économiques directes, c'était de protéger des chemins marchands en créant des points sur les routes, les points, c'est-à-dire des endroits de civilisation, ou dans des domaines, sur une partie de leur domaine qui était mal connue, d'implanter un monastère.
Alors je pense que pour implanter un monastère, il fallait qu'il y ait un étang déjà.
Il fallait
qu'il y ait un étang et des bois.
Disons, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est la mode de vie des moines qui entraînait qu'il y avait un besoin d'étang.
Bien sûr. Hein.
Et disons qu'un monastère, c'est une chapelle.
Oui.
C'est un bâtiment pour les moines.
Mm-hmm.
C'est une grange pour mettre le produit de leur récolte. Et c'est un étang.
Pour manger.
Pour manger, voilà.
Bien sûr.
Un étang et un vivier, hein, parce que
oui,
on va pas aller tous les jours à la pêche. On passe un grand coup de salut et de filet,
exactement.
Et puis on met tout ça dans le vivier. Alors, il faut voir aussi que le monachisme, c'est un mode de vie particulier, c'est un mode de vie retiré du monde. C'est-à-dire que quand on fonde un monastère, on doit donner aux moines. Au monastère, les moyens,
bien sûr,
de vivre et de se développer. Donc, c'est en général des dons de terre qui vont être exploités de manière. On va faire pousser des choses, on va faire de l'élevage, qui va permettre au monastère de vivre. Voilà. Donc, toute cette partie, cette période de création, elle va durer du XIe au XIIIe siècle, et puis ensuite, ben, on va tomber dans les problèmes. Les problèmes, c'est XIVe et XVe siècle, alors il y a la grande peste.
Mais oui.
Un tiers de la population qui disparaît, ce qui est énorme, ça veut dire qu'il n'y a plus de main d'œuvre, on ne sait plus entretenir toutes les terres. Et puis la guerre de 100 ans. C'est-à-dire que parallèlement, il y a des armées qui viennent radier un peu tout ce qu'on peut trouver. Les paysans, ils en ont marre d'être attaqués de toutes parts par leurs propriétaires qui leur disent si, il faut produire. Et puis il y a les bandes soit officielles. C'est-à-dire les armées, soit des bandes de brigands qui viennent piquer le reste. Donc finalement, un certain nombre s'en vont aussi dans les bandes de brigands. Tout est désorganisé. Et au niveau des monastères, c'est un repli sur soi, sur ses privilèges. Alors qu'avant, ça participait au monde.
On peut peut-être dire que c'est miraculeux qu'il y ait encore autant de monastères dans le Perche.
Ben, Ce qui est miraculeux, c'est qu'on ne les ait pas démolis.
Mais oui, c'est ça.
Mais
c'est
ce que j'ai dit. La population des monastères a considérablement baissé. Il y a eu un renouveau quand même au XVIe siècle.
Hein. Oui.
La Renaissance, d'un seul coup, il y a des bouleversements profonds dans les règles du monastisme. Et dans le Perche, on est bien placé avec la réforme trappistine, donc de l'abbé Lerancey, Soligny-la-Trappe. Ou même sur la grande abbaye de Tiron.
Alors justement, ma question, quels sont les monastères qui sont encore en tant que monastères dans le Perche?
Toujours vivants.
Voilà, c'est bon, ça. Voilà. Et ça, c'est très important, c'est un monastère.
C'est important parce que
combien il y a de moines à la Trappe?
Il y en a encore une trentaine.
Oui.
Une trentaine de moines. Bon, les bâtiments ne sont pas exceptionnels parce que la Trappe a été totalement démolie et a été reconstruite au milieu du 19e siècle. Il y a deux bâtiments anciens du 13e qu'on peut encore visiter, mais c'est une atmosphère tout à fait particulière.
Oui.
Bon, il y avait un prieuré dans un château près de Nogent, prieuré Jeanne d'Arc, maintenant, on a donné aux moines de ce prieuré une ancienne abbaye qu'ils sont partis occuper. Il y a des sœurs. Il y a la dernière création, à ma connaissance, c'est à Autun du Perche, avec l'arrivée de sœurs qui viennent de Bretagne.
Oui, c'est ça. Alors, quels sont les monastères que vous avez visités? Pouvez-vous nous les citer pour que nos auditeurs, ayant votre livre, puissent aller voir ces monastères?
Alors,
ils ne sont pas forcément des monastères. Voilà.
Je dirais qu'il y a à peu près 110 sites qui sont cités dans cet ouvrage. Je ne recommande pas à tout le monde pour moi. Il y a des ensembles qui sont, tout à fait représentatifs et qui, eux, c'est un peu comme le guide Michelin, ça vaut le détour. Ou ça mérite le voyage.
Eh bien, écoutez, peut-être notre éditeur, Jean-François Suzanne, qui est là, va peut-être nous donner un peu le plan de cet ouvrage pour justement vous inciter à lire ce livre.
Oui, alors, je ne suis pas l'éditeur, hein, c'est bien les Amis du Perche qui ont édité ce livre.
Oui, mais c'est vous qui le
représentez. La Fédération des Amis du Perche. Déjà, je voudrais dire que Philippe Boulet a eu un autre regard par rapport à nous, historiens. Je pense que nous sommes trop scientifiques et lui a pu se détacher et nous montrer une autre vision du Perche. Alors, il l'a fait en trois parties. La première, il vient de le dire, c'est la partie historique, la situation du monachisme dans le Perche. Une deuxième partie, les principaux sites monastiques. Dans le Loir-et-Cher, vous avez la commanderie d'Arville. En Eure-et-Loir, vous avez par exemple l'ancienne abbaye de Tiron-Gardet, ou alors, qui est moins visitable, c'est Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou. Donc en fait, ici, il a voulu à la fois nous montrer des sites visitables ou fermés, mais ils existent. Et puis, dernière partie, c'est un recensement des sites monastiques dans le Perche et de ses confins. Et là, je trouve que Philippe Boudet nous a montré trois intérêts dans cet ouvrage. Un intérêt touristique. Certes, les Amis du Perche ne sont pas la promotion du tourisme, mais ce livre va aider à promouvoir le tourisme percheron. Un intérêt patrimonial, avec ses magnifiques richesses patrimoniales, Philippe Boudet vient de le dire. Et enfin, un intérêt historique, parce qu'en fait, il a recensé ce que les Amis du Perche ont pu étudier, mais aussi il nous montre qu'il y a beaucoup de sites à étudier dans les années à venir.
Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous recommande, chers amis, le guide des abbayes et prierés du Perche et de ses confins, ce livre de Philippe Boudet, avec de très belles photographies qu'on doit à Guilain de Trebrézé, Albert Galissier et Patrice Grébert. Vous vouliez ajouter
quelque
chose?
Oui, juste dire que le livre sera présenté le 3 décembre à Tiron-Gardet à 17h au sein de la Grange aux Dîmes, donc samedi 3 décembre.
À Tiron-Gardet. Eh bien, chers auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Merci Christiane Blanc.